Bonjour à tous et à toutes. Je me réjouis de vivre ce temps de retraite avec vous, même si nous ne sommes pas physiquement présents les uns avec les autres. J'ai imaginé cette retraite comme un temps à la découverte de la lettre aux Philippiens, et je vous propose pour chaque méditation une escale ainsi que une escapade libre pour emprunter quelques ruelles personnelles. Les deux méditations sont introduites par le petit texte que je vais vous lire maintenant et qui est une introduction à la vie de Philippe ainsi qu'à la lettre de Paul aux Philippiens. Petite préparation en vue du voyage à Philippe. Paul écrit une lettre aux gens de Philippe, une ville de Macédoine en Grèce. Cette ville est devenue une colonie romaine en 42 avant Jésus-Christ. Mais ces indigènes parlent encore le grec et non le latin. Et Paul, en écrivant en grec, se fait donc comprendre de tous et de toutes. Paul est en captivité, mais malgré la séparation physique, il reste en communion avec cette communauté. Il garde confiance en eux et eux en lui. Ces liens de tendresse très forts permettent aussi la franchise. Paul peut écrire sans détour et sans prendre trop de précautions oratoires. Du point de vue religieux, il existe à Philippe une grande variété de croyances. Mais, comme dans toute ville colonisée par les Romains, il faut rendre un culte à l'empereur. Cet acte d'allégeance est obligatoire. C'est dire si les Philippiens vivent une situation difficile, puisqu'ils contestent la suprématie de l'empereur. Confesser le Christ comme Seigneur universel ne peut que susciter menaces et oppositions à l'encontre des chrétiens, car l'empereur doit lui aussi être vénéré comme Seigneur. Il faut donc trouver des moyens de résister aux pressions extérieures. De plus, la cohésion communautaire est mise à rude épreuve en raison de fractions et de convictions contrastées. Elles ont pourtant pour point commun de contester la vision universaliste de l'Évangile que Paul défend. Selon l'apôtre, tout un chacun peut recevoir l'Évangile, qui est un don de Dieu, et ceci sans condition préalable. L'Évangile implique que le croyant se sache accepté tel qu'il est. Dieu nous prend en considération dans notre être le plus profond. Il nous offre son esprit qui donne estime et considération. Ainsi, l'évangile paulinien implique la mise en pratique de l'amour du prochain, c'est-à-dire la prise en considération d'autrui et de ses besoins. Mais nous voici déjà arrivés à la première escale. Je vous suggère de lire dans vos Bibles le chapitre 2, les versets 1 à 11 de l'Épître aux Philippiens. J'ai ajouté le sous-titre S'estimer les uns les autres. Dans le début du chapitre, au verset 1, Paul mentionne la communion dans l'esprit. Seul ce lien permet d'instaurer de nouvelles relations. Paul insiste ici sur l'idée de partager un plein accord au-delà des interprétations qui peuvent différer. Nous reprendrons cet aspect dans la méditation de dimanche après-midi. L'introduction de ce chapitre 2, les versets 1 à 5, est en même temps une introduction à un hymne dédié au Christ, un hymne qui est une des plus anciennes confessions de foi et qu'on retrouve dans les versets 6 à 11. Le début de cette lettre est consacré au thème sous-jacent de l'estime de soi et des autres. Or, cette notion est une réalité curieuse. Il n'existe pas, vous le savez, d'appareil de mesure pour évaluer l'estime. Quand on parle d'estime, on renvoie au sentiment d'admiration ou de rejet. Ce serait alors du mépris. L'estime est de l'ordre de la relation. Bref, quand on parle d'estime ou de mépris, on navigue à vue. Ne faites rien par rivalité, rien par gloriole, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Que chacun ne regarde pas à soi seulement, mais aussi aux autres. Comportez-vous ainsi entre vous, comme on le fait en Jésus-Christ. Citation de Philippiens 2, les versets 3 à 5. Comportez-vous. Littéralement, soyez bien disposés les uns à l'égard des autres. Cette exhortation revient 10 fois dans la lettre aux Philippiens. C'est dire si elle est importante. Avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous. Chapitre 2, verset 3. Soyons clairs. Paul ne demande pas que nous nous méprisions nous-mêmes, que nous nous rabaissions, ni d'ailleurs que nous nous élevions au-dessus des autres. L'apôtre prône l'humilité. Cette dernière s'oppose à toute forme d'humiliation. Elle combat le mépris de l'autre comme de soi-même. Mépris qui engendre honte et perte de confiance. L'humiliation est contraire à l'Esprit de Dieu et contraire à l'amour du prochain. Le terme humilité vient de humus, la terre. Être humble, c'est donc savoir que l'on appartient au monde des humains. Il ne s'agit pas de vouloir être ce que l'on n'est pas, un surhomme ou une superwoman. Nous ne sommes pas au-dessus ni en dessous des autres. Notre sentiment de supériorité ou d'infériorité doit être transformé en esprit d'amour et de service pour le prochain. Paul ouvre ainsi une piste pour éviter de se juger soi-même, soit trop sévèrement, soit en se glorifiant. Et pour ce faire, l'apôtre propose un moyen particulier, que chacun ne regarde pas seulement à soi, mais aussi aux autres. Philippiens 2, 4. Il faut donc nous décentrer de notre moi. Le seulement est ici important, ne pas regarder seulement à soi, mais aussi aux autres. Il ne s'agit pas de se nier soi-même et de s'oublier complètement, mais il s'agit de quitter ce que l'on appelle si justement l'amour-propre, c'est-à-dire l'amour inconsidéré que l'on se porte à soi-même. À mon sens, cette capacité de se décentrer est déjà un don de l'esprit. La structure relationnelle proposée dans ce verset empêche d'une part la rumination sur soi-même et d'autre part la rage impuissante envers autrui. Parler à autrui, vers autrui et pour autrui libère. Le décentrement comme possibilité de quitter une préoccupation excessive de ce que nous sommes devient possible. Mais il est nécessaire que l'on abandonne la logique binaire qui compare deux identités, soi et les autres. Cette logique de comparaison provoque rivalité, jalousie ou gloire indue. Pour dépasser ce type de sentiment, Paul invite à une logique ternaire. Regardez à Jésus-Christ, aux autres et à soi. En portant nos regards sur le Christ, nous sommes appelés à entrer dans son abaissement, vivre une vie de service, et entraîner dans son élévation, vivre une vie dans la confiance auprès de Dieu. Voici maintenant une escapade libre pour emprunter des ruelles personnelles. Une proposition de méditation. Je vous propose de dire que je me souviens des temps forts vécus en église, retraite, études bibliques, célébrations, lectures bibliques personnelles, qui m'ont procuré de la joie et d'où je suis ressorti en disant « Voilà qui m'a vraiment aidé. Voilà un mot, une phrase, une attitude qui a contribué à me faire découvrir un aspect du visage du Christ. Voilà un mot, une phrase, une attitude qui m'ont permis de surmonter un sentiment de vide ou de rejet. Je termine cette méditation par une bénédiction, puisque je suis dans mon bureau et voyeur, que le souffle de Dieu crée en vous un nouvel élan vers les autres.